Merci beaucoup pour ce bon moment dans sa présence. Vous avez conduit au cœur de la présence de Dieu. Ça, c'est bon. Parce que c'est là que se passent les choses, dans la présence de notre Dieu. Il est bon, il est là et il est capable d'intervenir dans nos vies pour tout ce dont nous avons besoin. On va continuer notre parcours de croissance, et je voudrais lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 15. C'est les dernières heures de Jésus avant son arrestation. Sa mort et sa résurrection, dernier moment avec les apôtres, il va leur enseigner des choses tellement, tellement fortes, tellement importantes. Et on va s'arrêter sur une dimension vraiment importante de la vie chrétienne qui était sous-tendue dans pratiquement tous les champs. On va en parler ensemble ce matin. Jean 15, et on va lire les 11 premiers versets. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, le cep de vigne. Et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, déjà vous êtes émondés, déjà mon Père vous a taillé à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce que je vous demande, c'est de demeurer en moi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors vous serez vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Jusque-là. Si le Seigneur a pris la peine, excusez-moi, les graminées m'ont, je pense, en tout cas, m'ont retrouvé ce matin. Si notre Père a pris soin de demander à l'hypophyse de produire des hormones de croissance dans notre corps, hein, Alex nous dira, elles sont appelées les somatotropines, juste, hein, qui s'occupent de la croissance. Bon, certains en ont plus que d'autres, hein, d'ailleurs, des médicaments qui vont essayer d'encourager, hein, la production des hormones de croissance. Si Dieu ne sait plus à nous faire grandir physiquement, à nous développer, alors s'il a créé la somatotropine, il saura aussi créer la pneumatotropine, cette croissance hormonale spirituelle pour nous faire grandir, pour nous faire grandir. Je voudrais nous dire qu'il y a un fort appel de croissance sur nos vies. Il y a une aspiration de l'esprit. Quand il est là, les hormones de croissance spirituelle en nous se développent. Il y a un appel à la croissance, au fait de grandir. Dieu le fait, mais on participe et on voit ça dans l'Écriture. C'est un merveilleux mélange, un beau mariage de la part de Dieu et de notre part. Il y a un appel à la croissance. Faites de grandir dans plein et plein de domaines. Paul parle du fait que L'Esprit de Dieu en nous veut amener la stature parfaite de Jésus. Le caractère, l'aura, le tempérament, les actes de Jésus. Quand il nous voit nous réveiller le matin, il se dit, je vais développer encore un peu plus Jésus. Je vais lui faire goûter. Il va y avoir transfert parce qu'il est là. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On a déjà vu ensemble que ça signifie pour nous la croissance, le fait de grandir dans notre foi en lui, dans notre confiance. Le Seigneur veut que je ne reste pas un nain de foi. Souvent, il disait aux apôtres, mais vous ne croyez pas encore, les amis. Il veut que ma foi s'étoffe, se développe, que je pousse la foi dans ce dernier retranchement, dans toutes les petites branches de ma vie. Foi. Il veut que je développe aussi une telle espérance, une telle conscience de ma destinée pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité. Savoir que ce matin, je lisais un texte où le Seigneur faisait résonner ça dans mon cœur. Allez les inviter au grand mariage. Ça, c'est la perspective de notre vie. La perspective de notre vie, c'est pas seulement le Covid, c'est pas seulement l'après-Covid, mais c'est cette grande fête qui est devant nous et qui impacte notre aujourd'hui. Et puis, la croissance, elle va aussi se manifester dans notre amour. Dans notre amour. Jésus a aimé les siens, mais à l'heure du départ, il dit qu'il les a aimés à l'extrême. C'est-à-dire que même dans l'amour de Jésus, il y a eu une croissance, il y a eu une progression. On est appelé vraiment à grandir dans notre amour. Je ne peux pas me satisfaire de ce que j'offre maintenant, parce qu'il y a plus. Alors que parfois on est tellement à l'aise, place à la croissance. Place à la croissance. Mais on va aller plus loin, parce que je crois que pour nous, quand on parle de croissance, la première chose qu'on fait, c'est on prend nos jambes à nos coups, à notre cou, et on court dans tous les sens. Et on fait rimer croissance et effervescence, vitalité et activité. Et l'un des grands problèmes, je pense, dans notre croissance, c'est l'activisme. L'activisme. Hein, la religion du monde occidental adore le dieu du progrès, le dieu de l'activité, le dieu de la réussite. Et cette religion invite ses adeptes à se livrer à une concurrence acharnée, à réussir, à emmagasiner, à se mettre en compétition les uns avec les autres. Tous engagés comme des chevaliers des temps modernes dans des activités effrénées. Effrénées. Hein, c'est un philosophe, Eric Hoffer, qui disait « On nous presse de ne pas perdre notre temps, mais nous en arrivons à perdre notre vie. » On ne veut pas perdre de temps et on perd notre vie. Et on voit des gens qui passent la moitié de leur première vie, la première moitié de leur vie, à emmagasiner beaucoup d'argent, en abîmant leur santé, et la deuxième moitié de vie, ils vont dépenser leur argent pour essayer de rattraper la santé. Et on voit que l'activisme, elle se manifeste dans tant et tant de domaines de notre existence, dans nos foyers. Pas de temps les uns pour les autres. Dans le temps de travail. On nous pousse tellement à la consommation, on nous pousse aussi à croire que notre sécurité, elle viendra du travail, et on plonge dans le matérialisme, dans l'activisme. Dans les loisirs. Hein? Les études montrent qu'on est une société qui n'a jamais eu autant de loisirs, autant de vacances, et on n'a plus le temps après pour l'essentiel. Même parfois dans l'église, peut-être moins maintenant, mais on court parfois après tant et tant d'activités dans notre marche avec Dieu. On s'imagine qu'être chrétien, c'est faire des choses pour Dieu. Activisme, activité, activité en tout genre. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un point tellement essentiel, tellement essentiel. Si c'est seulement l'homme qui parle, ça ne changera rien. Mais si, comme nous le croyons, que l'Esprit est là, alors entendons ce qu'il veut nous dire. Et aménageons nos vies, parce qu'il nous faut croître dans la demeurance, dans l'intimité avec le Seigneur. Et je suis content d'aborder ce sujet-là après Christophe. Je crois que ça sera un bon complément. C'était un excellent rendez-vous dimanche passé. Excellent rendez-vous. J'espère qu'il a marqué nos vies. Mais ce serait dangereux de croire que notre vie, et ce n'est pas du tout ce que Christophe disait, mais parfois on est un peu tordu, on pourrait le comprendre comme ça, que notre vie, c'est quelques grands rendez-vous, quelques grands carrefours. Alors ces rendez-vous-là sont importants à ne pas manquer. Mais notre vie, elle est faite d'un cheminement dans des petites rues, on suit le GPS, on marche avec Dieu au quotidien. Et c'est parfois bien plus difficile de s'installer dans une telle proximité, dans une telle relation. Quelque part, Jacob, cette nuit-là, il ne pouvait pas manquer Dieu. Ok, il a combattu, il a cherché, mais Dieu lui avait fixé rendez-vous là, Peniel. Nous avons besoin de croître, et ce texte va nous en parler, dans notre demeurance, dans notre proximité. Et ça, pour nous, les chauboulettes de l'activité, ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Donc, je voudrais graver des choses dans notre cœur. Et j'ai demandé à Clémence de vous dire préparer du papier, parce que je voudrais vraiment être pratique, et je vais nous laisser deux batteries de conseils tout simples pour vraiment nous aider concrètement à apprendre à vivre dans la présence de Dieu au quotidien. En fait, ce que je voudrais m'efforcer de vous comprendre dans ce chapitre, c'est simple. Pendant la nuit, je pensais à la prédication et je pensais au fait que j'ai dit c'est simple, et je repense à ce qu'un des joueurs de foot que j'ai le plus aimé, on a dit que c'était un des plus grands, Johan Cruyff, un Hollandais, superbe joueur. Il a dit ceci, il est devenu entraîneur hein, après une brillante carrière. Il a dit, le football c'est un jeu simple, mais c'est compliqué d'être simple. Et quand j'ai lu ça, je tout de suite pensé à la vie chrétienne. Je dis, la vie chrétienne, c'est simple, c'est vraiment simple. Quand on voit ce texte, Jésus prend un pied de vigne et sarment et des raisins, c'est simple. Mais c'est compliqué d'être simple, parce qu'on est parfois tellement compliqué. Donc, je vais m'efforcer à nous rappeler des choses tellement simples. Notre union à Jésus-Christ, ce n'est pas une petite entrée, une petite souplette, avant le bon repas, le repas de résistance. On parlait avec Steph et Clémence, et on parlait des habitudes alimentaires, je pense, vendredi. Ils disaient, mais chez nous, en France, on parlait des repas tartines. Et non pas le repas classique tartine des Belges. Et puis, on parlait du dimanche en France, où, bien sûr, il y a l'apéro, et puis il y a l'entrée, il y a le potage, il y a le plat consistant, il y a le fromage, et puis le dessert. Et t'as mangé bon jusque vendredi. Et parfois, on s'imagine que notre union à Jésus-Christ, ça c'est la petite entrée avant quelque chose de plus important. C'est la porte qui m'ouvre la voie dans des endroits beaucoup plus importants. Mais je voudrais nous dire que notre union, notre relation à Jésus, ça c'est le steak. C'est la pièce de séjour, c'est l'endroit le plus important pour nous. L'union à Jésus-Christ, et pourtant nous courons dans tous les sens. Regardez comment votre temps est réparti. Quelqu'un regarderait votre emploi du temps, regarderait votre agenda, regarderait votre vie. Est-ce qu'il ne dirait pas que nous sommes en train de nous définir en fonction de ce que nous accomplissons? Je crois que, sans nous en rendre compte, on ne se considère pas avant tout comme des fils et des filles de Dieu, comme des sarments attachés, mais comme des personnes qui connaissent le succès et parfois l'échec, qui sont populaires, parfois impopulaires, qui sont compétents, parfois médiocres, selon que la journée s'est déroulée. Je ne me définis pas en fonction de ma relation avec Jésus, mais des choses qui prennent tellement d'importance pour moi. Donc, je voudrais nous dire que notre union à Jésus, notre incorporation, notre demeurance en Jésus, je crois que c'est l'espace incroyable à conquérir si nous voulons grandir. Si tu veux grandir, ça ne sera pas un à côté. Tu vas rester un nain dans plein de domaines. Je vais rester un nain dans plein de domaines, même si je fais 1m90. Attention aux apparences. Il y a des gens qui semblent anodins et qui pourtant ont une telle relation avec Dieu. Et parfois, on pourrait dire, waouh, l'éclat. Oui. Ça ne veut pas dire forcément. Je crois que notre demeurance en Jésus doit être un espace important à conquérir. J'ai envie de dire que notre union avec Jésus doit opérer un travail de labour en profondeur dans notre cœur. Je sais que j'ai déjà utilisé cette expression, mais elle me semble tellement importante. Mon union ma vie avec Jésus, la greffe que j'ai vécue avec lui, ça doit opérer un travail de labour dans notre vie. Alors je voudrais quand même nous dire, bien sûr, à la conversion, mon union à lui a procuré automatiquement, immédiatement, m'a procuré directement un nouveau statut. Quand tu es venu à Jésus-Christ, sans trop même le savoir, tu es devenu enfant de Dieu, il est venu vivre en toi automatiquement, un nouveau genre humain est né en toi. Mais pour que tu ressentes cela, que tu expérimentes cela, comme la vérité la plus profonde à ton sujet, eh bien ce statut, cette identité, elle réclame vraiment un travail de longue haleine. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous le sommes, dit Jean. Mais pour que nous l'expérimentions, que nous le ressentions, il y a un profond travail, il y a un style de vie à acquérir. Parce que c'est notre identité fondamentale, c'est cela, Christ en nous. C'est ça qui définit qui nous sommes. La vie de Dieu est venue en nous. Ce n'est pas un petit virus qui est venu. C'est tout l'être de Dieu. Quand l'Esprit est descendu, l'Esprit de Jésus, ils n'ont plus été les mêmes. Pour que nous changions, il faut que nous prenions conscience de ce qui était fait, que nous goûtions, nous jouissions de tout ce que Dieu a fait. Imagine, je pense en France, c'est toujours couvre-feu 18h. Imagine quelqu'un qui vit comme ça, cloîtré chez lui, et qui n'a pas entendu notre ami Emmanuel dire « Voilà, maintenant, plus de couvre-feu. » Il est toujours chez lui, il rentre à 18h, il court. Il est libre, il ne sait pas que c'est son identité, et il vit toujours calfeutré. Nous sommes devenus des nouvelles créatures, Christ en nous. Mais j'ai besoin que cette réalité fasse un travail profond, profond en moi. C'est le seul fondement sur lequel je dois bâtir ma vie chrétienne. C'est ça que Jésus enseigne aux 12, juste avant son départ. Il disait, mais Jésus, pars pas. Il dit, vaut mieux que je parte. Et j'ai dit, mais comment on va vivre? Comment on va vivre sans toi? Et il leur explique comment ça va fonctionner sans sa présence physique. Et il prend, probablement, les commentateurs disent qu'ils sont sortis de la chambre haute et ils vont à Gethsémané. Et à Jérusalem, il y a beaucoup de vignes. Et en voyant cette réalité, il leur explique, on sera comme ça, vous et moi. Je suis le pied de vigne, un petit arbuste, parfois petit, un peu plus grand, mais c'est pas très grand. Et des simples sarments attachés qui reçoivent leur vie, la sève du sarment, et qui portent du fruit. Ça sera comme ça entre nous. Quand on médite cela, je crois que cette affirmation et ces implications, ça défie l'imagination. Parfois trop habitué à lire ces choses, parce qu'elles décrivent la merveilleuse réalité de notre position. Vous savez que c'est à eux, c'est à nous que Jésus dit « Moi, je serai le pied de vigne et je vous ai greffé. » On est vraiment unis, on est vraiment unis. La priorité, c'est notre union. C'est l'incroyable communion, symbiose avec moi. C'est ça que Jésus dit. Et je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Il y a une symbiose incroyable. Il y a une unité biologique, organique, spirituelle, une union vitale et intime. Il n'y aura aucune distance entre vous et moi. S'il y a de la distance, c'est vous qui la mettez. Parce que moi, le CEP, je ne vais vous priver de rien. Ma vie sera en vous. Je vais me donner en vous. Mon esprit sera en vous et je vais tout vous donner. Alors, avec cette simple image, on comprend la nature de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord mon intelligence, mais mon potentiel. Non, spirituellement, je ne suis capable de rien. Je le dis spirituellement. Je suis stérile, aucune fécondité, en dehors du Christ. Livré à moi-même, je suis vraiment un rameau qui va se dessécher. Et ça, c'est un sale coup à nos capacités, à notre détermination, notre génie, spirituellement. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je ne dois pas essayer de produire du fruit pour demeurer. Je ne dois pas essayer de tirer sur la tige. Je produis du fruit tout simplement quand sa vie coule en moi. Notre rôle, c'est de rester attaché au cep, la demeurance. l'union, la symbiose. Simplement rester proche de lui, simplement garder la main, ma main dans la sienne. Et la sève, c'est l'image de la vie de Jésus en moi, coulera en nous et produira du fruit. Et plus ça coule, et plus il y a du fruit. Et Jésus dit, mon Père est glorifié dans le fait que vous portiez beaucoup de fruits. Quoi, il faut être très intelligent. Ce n'est pas cette question-là. Tant mieux si tu es intelligent. Mais spirituellement, ce n'est pas ça qui te qualifie. C'est un cadeau que Dieu te donne. Ce qui nous qualifie, c'est la vie de Dieu. Le sarment ne fait pas le malin près du cèpe en disant « Regarde qui je suis !» Le sarment, c'est juste un canal bien-aimé. C'est une image. On est ses enfants, il vient vivre en nous et il dit « Écoute, moi je veux que tu demeures en moi. » Alors certains pourraient se dire, peut-être presque inconscient, « Ah bon ?» Donc la vie chrétienne, c'est ça, quoi. Être une plante. Juste statique. C'est un verbe d'état, hein, demeurer. Hein, demeurer, ça te va bien. Ça semble tellement différent de ce que Paul dit. Combat, le bon combat. Cours. J'ai couru. Quand tu regardes tout ce passage de Jean 15, tu te rends compte que dans la bouche de Jésus, demeurer, c'est pas la passivité, c'est pas la paresse, c'est pas l'inertie, c'est pas du tout ça. Ce qu'il veut dire, il dit que mes paroles demeurent en vous. Que mon amour demeure en vous. Demeurez dans ma présence. Vous voyez, le terrain où se situe la croissance spirituelle. Il y a vraiment une demeurance dans son amour, dans ses commandements, dans sa présence. Avoir de la sève, c'est se nourrir de l'amour de Jésus. C'est se nourrir de la présence de Jésus. C'est se nourrir des paroles de Jésus. Avoir de la sève, c'est créer un cadre favorable à cette symbiose, à cette intimité. Ça n'a rien de passif. Il y a vraiment une intimité que je nourris, que je vais choyer. Alors, avant de nous donner deux séries de conseils, j'aimerais, parce que je me doute, chaque fois qu'on lit ce genre de texte, je suis sûr que beaucoup se disent, oui, mais attends, il y a des affirmations qui font quand même trembler. Jésus dit à plusieurs reprises, oui, mais le Père retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Est-ce que ça veut dire que si vous ne faites pas tous vos efforts de chrétien, vous serez jeté dehors, que vous allez sécher, que vous allez brûler? Non, ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Parce que les vrais sarments qui entretiennent un lien vivant avec le cep ne seront jamais coupés. Les vrais sarments qui ont été greffés, qui reçoivent la vie de Dieu, ne seront jamais coupés. Il a dit avant dans l'évangile de Jean, écoutez bien, « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Et au chapitre 10, avec les brebis, il dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Qu'est-ce qui se passe ici dans Jean 15? C'est le dernier repas. Et Jésus leur donne l'illustration du cep et des sarments dans la chambre haute pour leur montrer comment ça va fonctionner. Mais le texte nous dit que Judas vient de sortir et de partir dans les ténèbres pour trahir Jésus. Et le contexte est très clair, la leçon est claire. Dans un groupe qui donne l'impression de marcher avec le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, il peut y avoir des personnes qui, malgré les apparences, n'ont jamais été régénérées. Et les disciples voient Judas. C'est un sarment mort. Donc, l'ensemble du groupe était régénéré. Mais il est possible parfois que dans ce groupe-là, dans les membres de la famille de Dieu, certains vont montrer tôt ou tard la preuve qu'il n'y avait pas eu cette régénération. Ils n'ont pas porté de fruits. Autrement dit, ces sarments morts dont Jésus parle, il n'est pas question des chrétiens qui passent par des temps de faiblesse, qui sont rétrogrades. Ce sont des individus qui donnent la preuve à un moment ou à un autre qu'ils n'ont jamais eu une relation vivante avec le cep. Le vrai croyant doit garder cette assurance qu'il a été greffé. La vie du Christ est en lui. Il est pris dans une étreinte d'amour tout-puissant, éternel, qui le garde en sécurité. Jean, dans sa lettre, dit « Je vous écris ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Jésus n'est pas en train de brandir un épouvantail pour nous faire peur. Mais non, la vie est en vous. Mais maintenant, je veux qu'elle demeure. Pour certains, en fait, hein, même dans 1 Jean, il est question de faux prophètes dans l'Église. Et Jean dit, ils étaient des nôtres, mais ils ont manifesté que tout fait, ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont jamais été greffés. D'accord ? Alors, je voudrais deux séries de conseils. Premier plus large, un peu comme un entonnoir, pour créer un cadre et puis des choses très précises à vivre pour vraiment goûter à la présence du Seigneur. Rapidement, 12 premiers. Donc, notez-les. Je crois que, comme Jésus, nous avons besoin de cultiver une vision claire de notre mission. Cultive une juste vision de ta mission, de ce que tu fais sur terre, pour que tu puisses utiliser ton temps au mieux pour favoriser ta vocation céleste. Que tu gardes ça à l'esprit. Jésus sachant que son heure était venue, Jésus sachant que... Cultive un juste regard sur l'appel qui est en toi, sur la vie de Dieu. On a besoin de nourrir une juste vision de notre mission sur terre. Et ça va me permettre de prendre conscience de mes limites, et de mettre systématiquement du temps à part pour que Dieu vienne renouveler mes forces intérieures. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire, mais rappelle-toi que souvent, le bien peut être l'ennemi du mieux. Il y a un mieux dans notre vie, et il doit y avoir des priorités. Deuxièmement, ne sois pas tributaire des exigences de Pierre, Paul, Jacques, ni des attentes d'autrui. Apprends aussi à dire non par rapport à ta mission, par rapport à la priorité dans ta vie. Apprends à dire non. Toutes les requêtes, toutes les demandes qu'on te fait ne sont pas forcément justes. Elles vont te faire gaspiller beaucoup de temps et d'énergie. Troisièmement, trouve un équilibre entre le travail, et la demeurance. Équilibre ta vie. Équilibre les moments où tu recharges la batterie et tu décharges la batterie, entre la profondeur de sa présence et l'ampleur du service. Équilibre ta vie entre les temps intérieurs, les temps extérieurs, entre les temps de réflexion, les temps d'action, les temps de méditation, les temps de mise en application, les temps de contentement dans sa présence et puis les temps d'accomplissement. Trouve un juste équilibre. Quatrièmement, demande-toi toujours quelle est la quantité suffisante. Hein ? On pourrait réécouter, hein, mais je veux vraiment vous donner des conseils pratiques. Demande-toi toujours quelle est la quantité suffisante, tant au niveau de ton activité que du temps de la demeurance. Parce que quand on a des désirs un peu débridés, on va tuer le contentement et ça va nous pousser à un grand activisme. Cinquièmement, oppose-toi à ce que tes activités, ton travail, empiètent sur le temps de relation. Oppose-toi au fait que t'as tellement de choses à faire et tu n'as plus le temps pour la demeurance. Sixièmement, j'ai envie de dire, réduis tes engagements. Pour ne pas accomplir une œuvre médiocre et méprisable dans plein de domaines, tu vas être moyen dans plein de choses, mais plutôt dans ce que Dieu te demande, fais un travail excellent, dans un certain nombre limité d'activités. On ne peut pas tout faire. Et souvent, hein, l'Écriture dit, Dieu a horreur de celui qui fait les choses avec négligence, avec médiocrité. Dieu connaît nos limites. Jésus était fatigué, Jésus a dû se reposer, Jésus a dû s'isoler. Limite tes engagements, ne dis pas oui à tout. Mais excelle dans ce que Dieu te demande, fais-le pour sa gloire. Septièmement, la demeurance dans le Seigneur, ce repos en lui, ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup de foi, parce que selon l'optique du monde, c'est improductif que tu prennes du temps où tu ne fais rien d'autre qu'être dans sa présence. Aux yeux du monde, aux yeux de tes proches, ça peut sembler, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on ne sait pas mesurer les résultats de manière palpable quand je nourris du temps avec Dieu et nourris du temps avec les autres. Huitièmement, prévois à l'avance. Anticipe ton calendrier. Mets du temps de côté pour les choses importantes. Mets du temps à part pour les choses importantes. Sinon, le train-train du quotidien va venir manger tes priorités. Si je n'apprends pas à faire passer l'important avant l'urgent, Écoutez bien ça. Si je n'apprends pas à faire passer l'important avant l'urgent, l'urgent va toujours manger l'important. Et on est dans une société de l'urgence. De l'urgence ! Protège ton agenda. Neuvièmement, soyons conscients que notre nature humaine cherche toujours à éviter ce face-à-face avec Dieu. Il y a plein de moments où on n'a pas forcément envie de ce rendez-vous avec Dieu. Quelqu'un disait, dans la vie, notre grande difficulté, ce n'est pas de voir ce qui est encore confus au loin. Notre grande difficulté, c'est d'accomplir ce qui est très net et qui est à la portée de main. Onzièmement, vous savez, en grec, pour parler du temps, il y a deux mots, chronos et kairos. Chronos, c'est les événements quotidiens chronologiques. Et kairos, ce sont des occasions très favorables que Dieu suscite. Et souvent, on est rivé sur le chronos, l'agenda normal, la chronologie. Or, Dieu prévoit des occurrences, des temps particuliers, de rencontres, des rendez-vous particuliers avec lui. J'ai envie de nous dire, Paul dit, rachetez le temps, kairos. Rachète tous ces moments où Dieu suscite des rencontres, des temps forts avec lui. Hein? Rachète le temps. Sois souple. Et puis enfin, où que tu sois, sois-y pleinement. Là où Dieu t'a placé, dans ce que Dieu te demande de faire, engage-toi sans réserve dans toutes les situations où tu crois être la volonté de Dieu. Si souvent, les gens ne sont pas vraiment là. Ils sont déjà dans l'activité suivante. Sois pleinement là. Alors, je vais encore dire quelques mots. Vous savez, un poisson mort, il va flotter et il va suivre le courant. Si tu veux aller contre-courant, ça va te demander la force de nager. Et je crois que très souvent, quand même, par rapport à la culture ambiante, si tu veux vivre ta vie de disciple, tu vas devoir aller à contre-courant. Tu vas devoir aller contre la culture ambiante. Pourquoi ? Je prends un exemple. Le monde nous définit en fonction de ce que nous faisons. Globalement, c'est comme ça. Tu es défini en fonction de ce que tu fais. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle dit ? La parole, elle insiste sur ce que nous sommes devenus en Jésus. C'est ça notre identité. Vous êtes devenu mon épouse, vous êtes mes enfants, vous êtes le sarment, vous êtes mes brebis. Ce qui définit qui je suis, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis en Christ. Et l'Écriture dit, ensuite, fort de ce que tu es, ça va se manifester à l'extérieur. C'est mon identité qui va s'extérioriser dans ce que je fais. Il y a toujours un lien entre l'être et le faire, mais c'est crucial de le mettre dans le bon ordre. Le monde dit « fais et tu seras ». Mais la Bible dit « non ». Sois en Jésus-Christ. Remplis-toi de Jésus, demeure en moi. Et inévitablement, ce que tu vas faire va être impacté par sa présence. Autrement, c'est toujours mes œuvres, mes performances qui déterminent mon identité. Et quand, avec cette philosophie-là, quand je cesse d'agir, et beaucoup de pensionnés vivent très très mal. Il y a beaucoup de pensionnés qui se suicident parce qu'ils ne sont plus. Quand le monde vous dit « qui es-tu ?» et que tu te définis par « moi je suis électricien, moi je suis ceci, moi je suis… » Je sais qu'il y a des moments, au début du ministère, que quand il y a des gens à qui tu es, des pasteurs, les gens disent… C'est quoi ? Ça sert à quoi ? L'impression d'être un peu en dehors de la société. Mais quand tu te définis en disant ben « moi je suis cuisinier, moi je suis docteur, moi je suis instituteur », le monde sera toujours en droit de te dire « qu'est-ce que tu fais pour l'instant ?» parce que c'est ça qui donne ton identité. Mais écoutez bien, en Jésus-Christ, ce qui nous donne notre valeur et le fondement de notre vie, c'est ce que Dieu a opéré en nous. C'est ce que Dieu a fait en nous et pour nous. C'est ça qui dit qui je suis. C'est ça qui me donne ma valeur. Son regard sur moi, ce si grand salut, c'est ça qui fonde mon identité. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as été incorporé à lui. Tu es devenu son épouse, son bien-aimé. Il est rentré jusqu'au fin fond des racines de tout ton être. Il est là en toi. C'est pour ça que mon être doit toujours passer avant le faire. Et mon faire devrait refléter ce qui se passe à l'intérieur. Et si l'interaction entre l'être et le faire est coupée, je vais dysfonctionner. Il y a une déconnexion. J'ai lu un dessin qui m'a illustré il y a quelques années. On voyait un homme allongé sur un divan et un psychologue gangster, parce que le cadre au-dessus de lui montrait que c'était un escroc. Et le psychologue est à côté de cet homme qui est couché. Et le psychologue dit au patient, « Oh, ce n'est pas parce que vous volez, parce que vous tuez, que vous violez, que vous êtes une mauvaise personne. » Mais on n'est pas des entités disjointes, déconnectées, tranchées. On a un corps, une âme et un esprit qui forment un tout. Ma façon d'agir a des répercussions sur mon être et mon être a des répercussions sur ma façon d'agir. Et pour nous, l'action extérieure doit toujours découler d'une certaine réalité intérieure. Ma vie reflétée, ma vie extérieure, doit toujours découler de ma vie intérieure. C'est pour cela que Jésus dit « Demeure en moi ». Il doit y avoir une alternance entre solitude et engagement. Il doit y avoir une alternance entre réflexion, demeurance et application. Il doit y avoir une alternance entre les temps d'intimité avec Jésus et les temps d'activité avec Jésus. Regardez l'exemple que Jésus nous a laissé. Je ne veux plus être trop long, mais relisez les évangiles et regardez l'exemple de Jésus. On s'imagine que Jésus, il travaillait 28 heures par jour. Eh bien, c'est une très mauvaise lecture des évangiles. On voit que Jésus était d'abord habitué à aller dans les lieux de désert. C'est Luc 5 qui nous dit que, alors que son agenda hyper rempli, Luc change le temps de conjugaison. Il passe à l'aoriste, un temps grec de la durée, pour dire « Mais Jésus était habitué au désert. Il est près du Père et il sort de temps en temps et il va refléter. Où tu vas ?» Père, j'irai, je fais ce que tu me dis. Et quand on vit et on travaille sans se ressourcer valablement dans la prière et la méditation, je n'aurai pas l'énergie suffisante pour manifester les fruits de l'esprit dans un monde stressé à l'extrême. Parce qu'au cours des moments de culte personnel, le Seigneur va me donner d'acquérir une juste vision des choses et la force nécessaire, la fermeté, le sang-froid pour vivre convenablement. On connaît ce texte d'Ésaïe, c'est dans le retour à moi et le repos, dans le calme et la confiance. C'est quand tu t'arrêtes que tu vas renouveler tes forces. Notre vie profonde, réelle avec le Seigneur, c'est elle qui doit communiquer la vie à notre vie reflétée, à notre action. Le problème, c'est que nous, chrétiens, nous nous définissons par notre vie extérieure. Et nous croyons que parce que nous faisons ceci et cela pour le Seigneur, nous allons devenir des gens proches de Dieu. C'est faux. Toutes nos activités pour le Seigneur et toutes les autres activités ne vont pas faire de nous des gens proches de Dieu. C'est parce que nous sommes proches de Dieu que nos activités vont être impactées de sa présence. Le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ». Et nous, on inverse les choses. On s'imagine que parce que je fais des choses pour Dieu, je vais aimer le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Notre ministère doit procéder de la communion avec Dieu. Le but prioritaire de notre vie n'est pas de faire des choses pour le Christ, mais de le connaître. Toutes mes activités, toutes mes compétences sont complètement inutiles pour le royaume, si ce n'est pas le Christ qui les nourrit de l'intérieur. Et il ne le fera pas tant que je ne ferai pas passer l'intimité avant toute autre chose. Et on va s'épuiser à la tâche, on va courir dans tous les sens, et nos ministères vont rester tellement secs. J'ai presque envie de dire, et je vais terminer avec le dernier conseil, même les causes les plus nobles dans notre vie, élever nos enfants dans la crainte de Dieu, développer une entreprise chrétienne, connaître les Écritures, être un bon travailleur, former des disciples, ça ne parviendra jamais à nourrir ma foi si je n'entretiens pas une relation personnelle avec Jésus. Notre problème, c'est qu'on vise des objectifs trop bas. Nous visons des objectifs trop bas. Le but fondamental de notre vie, c'est de connaître Jésus, c'est de l'aimer et de marcher avec lui. On a plein d'objectifs, des sous-objectifs. Parce que le fondement de notre existence, c'est de connaître ce Dieu-là, ce Dieu incroyable. C'est donc tellement important qu'on cultive la demeurance, la demeurance. Je termine maintenant avec des derniers conseils très pratiques pour nous aider à goûter sa présence. Premièrement, il y a des moments où je dois envoyer des prières un peu flash. Très courtes. Hein? C'est une prière mentale qui m'aide à prendre conscience qu'il est là. Tu te lèves et hop, une prière flash. Seigneur, merci pour la nuit, ou Seigneur, voilà, elle a été ce qu'elle a été, mais je sais que tu es là. Et à plusieurs moments, dans ta voiture, sur ton lit, des petites prières flash pour que tu te souviennes et il est là en moi, il est là autour de moi. Deuxièmement, efforce-toi, à la suite des temps de méditation, de pouvoir résumer ce qu'il a mis sur ton cœur en une prière très brève que tu vas répéter tout au long de ta journée. Résume ton temps de communion avec lui en une courte prière que tu vas laisser chanter, prier en toi tout au long de la journée. Imagine un peu, allez, je prends cet exemple parce que je le lis devant moi. C'est pas un grand secret, hein. Méditer Jean 1, et Seigneur t'a interpellé avec Nathanaël. Nathanaël qui se reposait en dessous du figuier. Et Seigneur disait, je te vois, je te connais, et je connais ta situation. Moi, je pense qu'il est bon à ce moment-là que toute la journée, une prière monte et soit répétée, Seigneur, je te remercie parce que tu me connais. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, c'est juste quelque chose qui va te permettre d'être tout le temps en communion avec lui. Et tu fais monter cette prière. De toute façon, tu vas toujours penser à quelque chose. Autant que tu penses à ce que Dieu vient de te dire, hey, je te connais. Et tu peux le décliner sous toutes les formes, tu peux le chanter, tu peux faire le poirier, tu peux faire un rap, mais ça va créer une température, l'atmosphère du ciel est en toi. Seigneur, tu me connais. Hein? Troisièmement, prier et travailler. Hein, je ne suis pas en train d'ouvrir un monastère ici, mais prier et travailler. Que cette prière, elle t'accompagne dans ton travail. Fais ton travail en ayant une oreille ouverte à la voix de Dieu. Parce que si tu sais associer prière et travail, les tâches les plus banales et ordinaires vont devenir spirituelles. Ton travail va devenir spirituel. Tu demandes au Seigneur de venir vivifier ce que tu fais, même si c'est moche, si c'est difficile. Tu es en train de prier en travaillant. Tu es en train de louer, tu es en train d'intercéder. Prier et travailler. Quatrièmement, tellement essentiel, mets du temps à part sérieusement, un tête-à-tête sérieux avec le Seigneur. Je pense souvent les chrétiens ont des problèmes. Mets un temps de tête-à-tête sérieux avec le Seigneur. Vis devant le cœur de Dieu. Prends du temps. C'est la priorité de ta vie. Dieu regarde ton agenda et te dit, je veux du temps avec toi. Je veux du temps avec toi. Préfère l'obscurité et l'anonymat plutôt que les accolades publiques. Cherche Dieu dans le désert. Cinquièmement, dans toutes tes activités, quoi que tu fasses, demande au Seigneur de venir vivifier ce que tu es en train de faire. Dépends de lui, même dans les activités où tu es très bon, tu n'as besoin de personne, tu excelles. Demande tout le temps son aide, sa clairvoyance. Vis chaque chose comme cela dans sa présence. Demande-lui de venir injecter sa présence dans ce que tu fais. Sixièmement, connais-toi, connais aussi tes faiblesses, tes tentations. Comme ça, dès qu'elles surviennent, tu connais tes points faibles. Tu as toute la stratégie devant Dieu pour vaincre cela. Hein? Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Hein? Prépare-toi, connais tes faiblesses et saisis chaque fois cette occasion pour tourner tes regards vers le Seigneur. Peut-être que tu es quelqu'un d'hyper inquiet. Hyper inquiet. Il y a une mouche qui vient près de toi et tu es déjà terrorisé. Mais tu t'es préparé. Seigneur, je sais que tu me connais. Vous savez, vous n'allez jamais vaincre le péché en cherchant à l'éviter. Tu pourrais essayer d'éviter les mouches, mais elles vont revenir. Tu ne vains pas le péché en l'évitant. mais en regardant Jésus. Septièmement, dans cette vie, parce que l'objectif, c'est que tu puisses demeurer tout au long de la journée. Ce qui veut dire, utilise toutes les circonstances de ta journée pour les transformer en prière. Prie pour les personnes que tu rencontres intérieurement. Ce n'est pas que tu veux dire, attends, stop, je vais prier pour toi. Non, non, intérieurement, Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis cette personne. Quand tu marches, quand tu es en voiture, quand tu attends, demande au Seigneur d'inspirer des sujets. Seigneur, donne-moi des impulsions. Qu'est-ce que tu veux, hein? Transforme ce que tu vis en prière. Huitièmement, essayons de voir la splendeur de Dieu là où nous sommes. Regarde son chef-d'œuvre dans la nature. Quand tu marches, que tu conduis, regarde un peu le cadre dans lequel tu es. Regarde les fleurs, regarde les arbres, regarde les oiseaux, le vent, les nuages, la couleur du ciel, et transforme ça en louange. Regarde et savoure la beauté, l'intelligence du Créateur. Neuvièmement, fais de tous les plaisirs de ta vie un sujet d'adoration. De tous les petits plaisirs, une bonne pizza, Seigneur. Merci pour la péninsule italienne. Merci pour tous ces produits, pour ces saveurs. Merci. Tu transformes tous les petits plaisirs. Un bon moment de communion, un temps avec ton conjoint, un temps avec les enfants, un temps de soleil. Transforme tout en don de Dieu. Toutes tes circonstances. Vois le côté sacré dans tout ce que tu fais. Et peut-être spécialement aussi, remercie Dieu pour toutes les personnes que tu rencontres. Les personnes déplaisantes, remercie Dieu parce qu'ils sont en train de travailler ta vie. Et puis celles qui sont laissées pour compte, remercie Dieu. Et puis, je termine, onzièmement. Comme on est toujours des gens qui regardons vers l'avenir, c'est pas mauvais en soi, mais parfois on n'est plus vraiment là présent dans notre aujourd'hui. J'ai envie de dire régulièrement, arrête le temps. Et arrête de penser à ce soir, à demain, et jouis du moment présent. Moi, je sais que ça, c'est un de mes grands problèmes. Jouis du moment présent. Prends conscience que Jésus est là. Pleinement là. Jésus n'est pas en train de se dire, ouais, ce soir, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille encore au Kremlin. Non, il est là. Il prend plaisir à être avec toi. Il ne te délaisse pas. Il est là dans les petites choses. Voyez, intimité et activité, isolement et engagement, vie intérieure, vie extérieure, vocation à servir, formation du caractère, travail, repos, chaque aspect de notre vie est important. Jésus nous invite à demeurer en lui. Tu t'imagines, tu es invité à la table du roi. Il veut être ton ami, ton proche. Il a des choses à te dire. Il y a des choses... Il n'y a qu'à toi qu'il veut dire. Il y a des choses qu'avec toi il veut faire. Et nous, que le Seigneur nous aide vraiment. La croissance, elle passe par là. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui est importante. Marie a choisi la bonne part. Choisissons la bonne part. Gérons notre temps, notre agenda. Montrons qu'il est la priorité. Moi, je vous encourage, si vous le pouvez, dès le matin, prenez du temps dans sa présence. Plonger dans la marmite de la potion magique. Hein? On va chanter un chant, puis on va simplement terminer le culte dans sa présence, à travers la Sainte-Seine.